En communion avec Marie, laissons-nous, consentons à nous laisser rassembler dans ce grand réseau d'amour qui veut nous rassembler tous ensemble dans tout l'univers. Laissons-nous rassembler comme des enfants, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Père, vois nos difficultés d'être en communion les uns aux autres dans notre monde. Nous le savons, de toute la création, seule la famille humaine risque de s'écarter de sa vocation, de la voie à la sainteté qui est la vocation à l'amour. Nous le savons, Père, nous avons de la difficulté à vivre en communion. Nous le savons, nous devons nous remettre ensemble pour marcher dans la voie de l'amour qui est la voie de la sainteté. Père, toi la source de l'amour, apprends-nous l'amour, la compassion et l'honneur, afin que nous puissions guérir la terre et nous guérir les uns, les unes, les autres. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui nous a aimés jusqu'au bout. Et c'est par ses souffrances et ses blessures que nous sommes guéris, que la terre est guérie. Nous voulons, Père, dire Amen à ton désir de communion, à ton désir d'un règne de fraternité et de joie. Nous voulons cet après-midi dire Amen à ta volonté d'amour. Et nous voulons te demander de nous aider à éviter les tentations qui sont dangereuses pour l'humanité. Nous voulons te demander, Père, de nous aider à nous délivrer du mal, du malin, par Jésus, ton Fils bien-aimé, en qui nous croyons et en qui nous sommes rassemblés. Amen. Bonjour. Vous vous rappelez que la première après-midi que je vous ai parlé, je voulais dire « Amen à notre Père », n'est-ce pas? Puis hier soir, c'était dire « Amen à l'amour que le Père nous donne toujours pour qu'il puisse circuler en nous ». Ça s'appelle le pardon, l'amour qui circule. Et cet après-midi, parce qu'il y a encore beaucoup de choses dans notre Père, n'est-ce pas? Cet après-midi, j'aimerais que nous puissions dire « Amen » à que son règne arrive parmi nous, par nous, que sa volonté soit faite chez nous comme elle est faite au ciel, et que nous puissions être attentifs à reconnaître dans nos vies les tentations qui nous empêchent de vivre le règne, nous empêchent de revivre l'amour, nous empêchent d'être unis, d'être en communion. La prière que j'ai faite tout à l'heure, je l'ai empruntée à nos frères autochtones, les Ojibwés, qui ont fait leur prière. Eux autres, ils appellent leur Dieu grand-père ou Manitou, mais c'est le même, et nous, on l'appelle Père, Papa, Abba. Si vous avez remarqué sur ce beau tableau du fils prodigue qui vient retrouver son père, alors qu'il pense qu'il a tout perdu, qu'il a tout gaspillé, et qu'il retrouve qu'il y a quelque chose, le plus bel héritage, il ne l'a pas perdu, il est toujours le fils à son papa. Il pensait qu'il avait plus ça, mais il a toujours ça, on ne peut pas lui enlever ça, le fils de son père. Vous avez remarqué, sur les épaules de celui qui revient, le papa, le père, a une main de mère, une main d'homme, une main de femme. Avez-vous remarqué ça? Il y a deux mains, une main d'homme, une main de femme. Ça veut dire qu'il y a en Dieu des traits de mère et des traits de père, maternels et paternels. Et cet après-midi, avec Marie, j'aimerais commencer en vous racontant l'histoire de deux femmes que j'ai rencontrées, qui ont été pour moi des images de Dieu. Une jeune maman et une arrière-grand-maman qui m'ont appris des choses que je n'ai jamais oubliées, qui m'ont fait réfléchir. J'avais fait monter une jeune maman sur le pouce. Elle attendait son deuxième bébé. Elle était à la veille d'avoir son deuxième bébé. Puis je lui ai demandé, « Comment ça a été quand tu as eu ton premier bébé? » Elle a dit, « Ça a été très bien. » Elle a dit, « J'ai accouché comme une chatte. » Mais elle dit, « Il y il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Pas encore. Mais j'ai dit, est-ce que tu veux me le partager? Elle a dit, oui. Mais je n'ai jamais dit ça à personne. Elle a dit, vous savez, elle dit, quand j'ai vu mon premier bébé, ça n'a pas duré longtemps, par exemple. Elle dit, énervez-vous pas, ça n'a pas duré longtemps. Hein? Elle a dit, j'étais déçue quand j'ai vu mon premier bébé. Mais j'ai dit, pourquoi? Elle a dit, parce que j'ai trouvé qu'elle ressemble à Adam, son père. Elle a dit, il me semble que lui, il n'avait pas fait grand-chose. Puis moi, je l'ai porté 9 mois. Puis à la fin, elle ressemble à son père. Hein? Et moi, je suis arrivée, quand elle est descendue de voiture, j'ai dit, oh mon Dieu, que c'est beau ça. On travaille-tu, hein, pour élever nos enfants, pour faire l'église, pour travailler les uns les autres. Puis à la fin, il faudra qu'on ressemble au bon Dieu. Parce qu'il nous a créés pour qu'on devienne lui ressembler. Puis à la fin, il faudra qu'on ressemble au bon Dieu. Puis moi, il me semble toujours que le bon Dieu n'a pas fait grand-chose. Il a mis un germe au commencement, comme le papa fait. Puis il s'est reposé. Puis il nous a tout confié ça. Qu'on fasse le jardin, qu'on sème, qu'on fait tout, qu'on l'élève, qu'on fait grandir, qu'on l'arrose. Puis à la fin, il est sûr que ce qu'il a mis de germe en nous, lui, son amour, ça a fait qu'on va ressembler au bon Dieu. Puis on pourra dire que plus on vieillit, hein, plus on va ressembler au bon Dieu, et plus on pourra dire aussi de nous, comme on dit de Jésus, « Qui me voit, voit le Père. Qui vous voit, voit Dieu. » Parce qu'on lui ressemble de plus en plus, plus on est capable d'aimer, plus on est en relation les uns avec les autres, parce que Dieu est relation, n'est-ce pas? Dieu est Trinité, Dieu est relation. Et Pierre nous le dit, c'est quand on est en communion, en relation avec les autres, qu'on ressemble au bon Dieu. Il nous a créés pour être des relations, hommes-femmes, mais toutes sortes de relations, et c'est là-dedans qu'on ressemble au bon Dieu, Trinité. Marie de l'Incarnation, c'est une de ses grandes dévotions. Elle a expérimenté dans 3 expériences spirituelles, elle dit que Dieu est vraiment mon Père, que Jésus-Christ et moi, on est Jésus le Verbe, le Fils de Dieu et moi, on est en communion très profonde dans la chair, et que c'est le souffle de Dieu qui nous anime et qui nous pousse. Elle a expérimenté qu'elle était Trinité, elle aussi, relation. Alors, c'est la première maman qui m'a dit ça, qu'à la fin, on travaille à faire l'Église, mais à la fin, il ne faudra pas que l'Église me ressemble. Il faudra qu'elle ressemble au bon Dieu. Communion et relation entre les humains. Et l'autre dame que j'ai rencontrée, c'était aux îles de la Madeleine. C'était avec les gens de l'âge d'or. Il y avait une grand-maman, là, une arrière-grand-maman qui avait 102 ans. Et je leur ai demandé, c'était tous des parents, des grands-parents, qui ont eu des enfants. J'ai dit, avez-vous fini un jour, vous autres, de mettre vos enfants au monde? Est-ce que ça finit un jour? Ceux qui sont parents ici, vous finissez? Hein? Et la grand-maman m'a répondu, elle dit, non, moi j'ai un fils à Montréal, il se meurt du cancer. Puis elle dit, je le sens ici. Puis elle avait aimé sur son ventre. J'ai dit, à quel âge votre fils à Montréal, madame? Elle dit, à 80 ans. Hein? Mais elle n'avait pas fini de le mettre au monde. Pensez-vous que le bon Dieu a fini de vous mettre au monde? Il n'a pas fini. Il n'a pas fini de nous mettre au monde. Alors, il est encore en train de nous travailler. Et moi, je trouve ça beau, cette image-là. Il n'a pas fini de nous mettre au monde. Et quand Dieu parle de ses enfants, il dit la même chose que la grand-maman a faite. Il se prend les entrailles. Parce que le mot qu'on a traduit en français par tendresse, là, quand on lit ça dans la langue originale qui est l'hébreu, ça veut dire des entrailles. Alors, quand le bon Dieu, chacun de nous, il nous sent dans ses entrailles qu'il n'a pas fini de nous mettre au monde. Puis, il y a un beau texte dans le prophète Jérémie, où le Seigneur dit, « Mes entrailles en moi frémissent comme une cithare, comme un instrument de musique. Mes entrailles en moi frémissent comme une cithare. » Et je suis sûre que la plupart d'entre vous qui avez des enfants ou des enfants qu'on a eu physiquement ou qu'on a spirituellement, je suis sûre que vous avez expérimenté ça, de sentir ça dans vos entrailles, ce qui se passe à vos enfants, même s'ils sont loin. Vous le sentez, n'est-ce pas? On sent ça. Alors c'est ce Dieu-là dont saint Paul a écrit à des gens qui étaient à Éphèse, ses disciples. Un chapitre 5, au verset 1er, il dit à ses amis, les membres de sa communauté, « Écoutez bien, rien de moins que ceci. Cherchez à imiter Dieu. Oh boy! Cherchez à imiter Dieu comme des enfants imitent leurs parents. » Il ne dit pas d'imiter saint François, ni saint Angèle, ni sainte Thérèse. Rien de moins que d'imiter Dieu comme des enfants bien-aimés. Puis il nous dit que ça veut dire « Suivez la voie de l'amour à l'exemple de Jésus-Christ qui vous a aimé et s'est livré jusqu'au bout. » Cherchez, mais suivez la voie de l'amour, ça va vous amener à donner vos vies comme Jésus-Christ l'a donné et jusqu'au bout. Il y a 3 ans, j'ai rencontré dans un groupe de méditation un jeune homme qui venait de la ville, au cégep de Gaspé. Et il s'appelait Francis. Et Francis est venu me rencontrer pendant la fête semaine de méditation, il s'est inscrit. Puis il est venu me dire ceci, c'était la semaine après Pâques. Puis il dit, Sœur Rita, il dit, pendant la semaine sainte, j'ai lu la Passion de Jésus. Je suis pas sûr qu'il était allé aux offices la semaine sainte. Mais il a lu la Passion de Jésus. Puis il dit, j'ai pleuré en lisant la Passion de Jésus. J'ai dit, t'as pleuré en lisant la Passion de Jésus? J'ai dit, moi j'en connais plusieurs maintenant, qu'on ne pleure pas nécessairement en lisant la Passion, même si on trouve ça beau. J'ai dit, pourquoi t'as pleuré? Il dit, parce que j'ai compris en lisant la Passion de Jésus que c'est pas la croix qui a fait mourir Jésus. C'est parce qu'il a été fidèle à aimer jusqu'au bout et ça, c'est ça qui l'a mené sur la croix. C'est bien, hein? C'est pas la croix qui l'a fait mourir, c'est l'amour. C'est parce qu'il l'a aimé jusqu'au bout, il a été fidèle à sa vocation, à la volonté du Père. Aimez-vous les uns les autres. Il a voulu travailler à faire un règne du Père, le royaume de l'amour, et ça l'a mené sur la croix. J'ai dit, merci beaucoup de m'avoir fait saisir ça. Tu n'as que 24 ans. Et tu as saisi ça. Et le lendemain soir, il nous a partagé au petit groupe que nous étions. Il dit, moi, j'ai compris maintenant que j'ai appris à écouter mon cœur. Il dit, j'ai compris que Jésus sur la croix devait souffrir beaucoup physiquement, mais qu'il devait être heureux en dedans. Parce qu'il avait été fidèle à ce qu'il était. Il avait été fidèle à ce que le Père avait mis en lui d'aimer jusqu'au bout. Il devait être heureux en dedans, même s'il souffrait sur la croix. 24 ans que Francis, c'est ça qu'il m'a enseigné. Et je me dis souvent, vous savez, c'est un petit peu ce que Pierre disait l'autre jour. Francis est venu me rencontrer. Mais moi, je pense que Dieu savait que c'est moi qui avais besoin de rencontrer Francis. Vous savez, ça arrive très souvent, ça. On pense que les gens viennent nous rencontrer, mais Dieu sait qu'on a besoin de rencontrer ces personnes-là. C'est ça qui est mystérieux. C'est ça qui est beau. C'est ça qui nous fait vivre, peut-être, cette parole. Alors, si nous sommes appelés à suivre la voie de l'amour, à ressembler au bon Dieu, parce qu'on a en nous une semence de son amour pour devenir de plus en plus ses fils et ses filles, et qui n'a pas fini de faire de nous des fils et des filles. C'est parce que l'amour, c'est certainement une aptitude à la relation. Si je vous demandais cet après-midi de me dire vos amours, vous me parleriez de vos relations, n'est-ce pas? Votre père, votre mère, vos enfants, vos voisins, vos voisines, de votre chocolat que vous aimez, de ce que vous aimez manger, de ne pas aimer manger. Vous me diriez tout ce avec quoi vous êtes en bonne relation ou en mauvaise relation. Alors moi, je suis convaincue que l'amour, puisqu'on ressemble au bon Dieu qui est relation, que l'amour, c'est une aptitude en nous, divine, à être en communion les uns avec les autres. Que c'est une parole qu'on se dit mutuellement. Aimez-vous les uns les autres. C'est une parole d'amour par les yeux. On parle par les yeux, par les mains, par le corps, par tout notre être, qu'on se dit mutuellement pour être en communion on se dit l'amour les uns les autres, une parole qu'on se dit mutuellement, une parole mutuelle. Comme le Père et le Fils n'arrêtent pas d'être, de se partager cet amour qui les habite par l'Esprit qui les unit. Et je suis convaincue à partir de cela que le royaume de Dieu, ce qu'on appelle le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est pas une théorie, c'est pas un fantôme, c'est pas quelque chose d'abstrait qu'on va atteindre à la fin du monde. Pour moi, c'est le royaume des relations réussies. Entre nous, comme ça l'est entre le Père, le Fils et l'Esprit. Le royaume des relations réussies. Et je suis tellement de plus en plus convaincue de cela, parce que comme vous, il m'arrive de rencontrer des gens qui me disent « c'est l'enfer chez nous ». Ça vous arrive-tu, vous autres? C'est l'enfer chez nous, parce qu'on n'arrive plus à se parler, on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à être en lien les uns avec les autres. Et on connaît des personnes, au lieu de retourner à la maison direct le soir, ils font des grands détours pour tarder le plus possible le temps de rentrer chez eux, parce qu'ils disent « c'est l'enfer, on ne se parle plus ». Mais si c'est ça l'enfer, que les relations sont toutes brisées, on n'arrive plus à communiquer, à se dire ces paroles-là qui nous font du bien, mais je pense que le royaume de Dieu, le ciel, c'est quand ça réussit, puis qu'on a envie de dire, on pourrait-tu rester ici tout le temps? C'est assez bien quand on est ensemble, en communion, on va dresser trois tentes, là, puis on va rester ici tout le temps, tellement on est bien. Le ciel, c'est le royaume des relations réussies, et ce que nous demandons au Père, c'est que l'amour qui a mis en nous sa volonté, qu'il a inscrite dans nos cœurs, que ça circule assez bien entre nous, que le monde, la terre, se finisse par ressembler un petit peu à des coins de paradis où on est bien ensemble, la communion. C'est ça que nous demandons, à quoi nous disons « Amen », que ton règne arrive, n'est-ce pas, que ça finisse par ressembler au ciel, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté du Père, on est très chanceux, il l'a inscrite en chacun de nous. Elle n'est pas à l'extérieur de nous, elle n'est pas au dehors de nous, elle est inscrite, c'est « aime et tu vivras ». Et Jésus nous l'a redit dans sa manière, il dit « ce que mon Père désire, et ce que moi je désire de vous, pour qu'on reconnaisse que vous êtes mes disciples, c'est aimez-vous donc les uns les autres, à ce signe-là, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » C'est qu'on soit fidèle à la vocation qui est en nous, c'est plus fort que nous, à ce qui est écrit en nous, à aimer les uns les autres. Mais c'est difficile. Je pense que c'est pour ça qu'on finit le Notre Père en demandant au Père, à notre Père, de nous faire attention pour ne pas tomber dans les tentations et de nous délivrer du mal, du malin, ou de tout ce qui fait du mal dans le monde au lieu de faire du bien comme l'amour fait du bien. C'est facile de savoir si on s'aime, on dit « ça fait du bien ». N'est-ce pas? Il passait en faisant le bien. Ça fait du bien. Hein? Mais on est chanceux. Jésus, si vous vous rappelez, après qu'il a entendu le Père, le ciel s'est ouvert, son nom, il l'a reçu, hein? son identité, il l'a reçu à la verticale, le Père lui a dit « tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour, et Dieu sait s'il y en a, tout son amour de Père ». Jésus a dit qu'il a été poussé par l'Esprit, par le souffle qu'il y avait en lui. Il a été poussé au désert. Vous rappelez-vous de ça? Il vient d'être confirmé puis par le Père, puis il est poussé au désert. Et moi, je trouve ça très important. Parce que Jésus nous a révélé en allant au désert, au début de sa vie, il nous a révélé comment le diable, le malin, s'y prend pour nous faire dévier de la voie étroite qui est la voie de l'amour, qui nous fait mène à la vie, puis il dit, il y a beaucoup de chemins qui nous mènent à la mort, à la dispersion. Puis il nous amène avec lui au désert, 40 jours. 40 dans la Bible, c'est le chiffre 40 heures, 40 jours, 40 ans. C'est un peu un chiffre symbolique de la durée d'une vie humaine, d'une histoire humaine, de ma vie, de ta vie, de l'histoire d'une institution, 40 ans, une traversée. Puis il va au désert, pour traverser le désert, poussé par l'Esprit. Puis là, on dit qu'au désert, il a rencontré le diable. Le diable, vous savez, on peut avoir une image un petit peu drôle de lui, hein? Tellement drôle avec une fourche, puis tellement drôle qu'une caricature. Mais le diable, c'est un mot Dans la langue originale, dans le grec, là, ça veut dire, savez-vous quoi, le diable? Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? Le diviseur. Y es-tu à l'œuvre? Hein? Le Père nous a fait sa volonté, c'est qu'on soit en communion les uns avec les autres, qu'on se rassemble, qu'on soit bien, qu'on se partage la parole mutuellement, qu'on se fasse vivre mutuellement par l'amour. Et le diviseur, il veut nous diviser. Il prend tous les moyens pour nous faire dévier de la voie de l'amour, nous prendre des chemins qui nous divisent. Pensez-vous qu'il est à l'œuvre? Le malin, le diviseur qui fait qu'il y a du mal dans nos communautés, dans nos couples, dans nos familles, parce qu'il cherche à nous diviser. Et Jésus vit pour moi, moi je trouve ça important, il nous montre trois façons dont le diable s'y prend pour faire que le monde ne ressemble pas au royaume du Père. Trois façons, vous les savez. La première façon, parce que le diable est fin, puis il sait des choses, il sait que l'amour c'est un grand désir de communion entre nous, de relation. Il sait que sans relation, on ne peut pas vivre, sans amour, on ne peut pas vivre. Puis il s'organise quand on est en fin de relation, on a fin de relation. Il s'organise pour nous dire de prendre ce qui nous tombe sous la main et de penser que ça va combler nos faims, nos soifs profondes. Jésus, on dit, au bout de 40 jours, il eut faim dans le désert. Le diable s'est présenté puis il a dit, tu aurais le pouvoir, regarde, il y a une belle pierre ici, tu as le pouvoir de transformer ça en pain. Tu vas manger? Jésus répond non. Il dit non parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de paroles, de relations, de communion. Savez-vous quand est-ce que j'ai compris ça? Petit à petit. Un jour, j'étais à Bayonne, en France, avec un groupe de laïcs. Puis je ne sais pas pourquoi. J'ai demandé, voulez-vous me dire, vous autres, de quoi Jésus a jeûné? Puis on vient lui présenter du pain, puis il dit non. De quoi il avait jeûné pour dire non? Il y a un monsieur qui m'a répondu tout de suite, il a jeûné de relations. J'ai dit, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Et que le plus grand désert dans notre monde, le plus grand jeûne, c'est un désert de relations. C'est ça qui fait le plus mal. Que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de relations, de communion, de rencontre des autres. On est fait pour ça parce qu'on est à l'image de Dieu. Et je me suis mise à observer après ça, à essayer de comprendre moi-même, tout ce qu'on prend qui nous tombe sous la main, pensant combler nos faims, nos soifs profondes, qui fait que j'ai compris que le diable, il veut toujours transformer notre désir profond de communion, notre fin de relation, par de la consommation. Consommer, avoir des choses, beaucoup de choses, consommer même les personnes, tout consommer et laisser tomber après usage, mais sans nourrir le cœur de relation. Et j'ai compris des choses. Je me rappelle d'une petite fille de 12 ans, dans un hôpital de la Gaspésie, après une tentative de suicide. Et qu'on lui demande ce qui se passe. Elle dit, moi, elle dit, j'ai tout ce qu'il faut chez nous. J'ai rien qu'à faire ça, puis elle dit Nintendo vidéo, j'ai toutes les affaires là. J'aimerais donc ça avoir un petit peu de temps pour parler avec papa et maman. De quoi avait-elle jeûné? De quoi avait-elle jeûné? Quelle était sa faim, sa soif profonde? Des choses ou un temps pour parler, communiquer avec papa et maman, avec les autres aussi. Je me rappelle d'un petit garçon, il avait 14 ans. Puis lui aussi, il désirait avoir du temps pour parler avec son père. C'est très important pour un garçon, s'identifier à son père, d'aller à la chasse avec lui, d'aller à la pêche, d'aller faire des activités. Et le papa n'avait jamais le temps. Travail, travail, travail. Pour se faire un royaume. Et le petit garçon de 14 ans est allé un jour prendre un rendez-vous chez la secrétaire de son père. Puis un bonjour, le papa ouvre le bureau. Prochain client, son petit garçon de 14 ans. Il dit, papa, pourrais-tu te payer une heure de temps, moi aussi? J'aurais besoin de te parler. De quoi a-t-il jeûné? De relations, de temps. Prendre le temps. Et je me rappelle dans un hôpital à Charny, en banlieue de Québec, il y a longtemps. Je donnais une session sur la dimension, sur ce qui donne du souffle dans les soins hospitaliers, qui aide les gens à vivre. Puis il y a une dame qui me dit ici, une infirmière qui dit, « Oh, c'est drôle, on a un vieux ici, et quand on lui dit qu'il est mieux, il retombe malade, parce qu'il ne sait pas où aller en sortant de l'hôpital. » S'invente, il développe une maladie parce qu'il est sûr qu'avec une maladie, il va avoir quelqu'un avec lui. Il va avoir de la des gens autour de lui, il va avoir des soins, il va avoir des relations, tandis qu'il ne sait pas où aller, l'isolement. Et je pense que aujourd'hui, je pense que nous sommes à faire attention à cette tentation du diable de voir si on ne compense pas des fois nos manques de relations, nos souffrances dans les relations, par toutes sortes de compensations, de dépendance, où on pense être comblé en dedans, mais on ne l'est pas. Et quand Jésus nous parle, nous met en garde tout de suite avant de mourir, il dit, quand je vais revenir chez vous, dans votre village, dans votre paroisse, dans votre famille, dans votre couple, dans votre communauté religieuse, quand je vous frapperai à la porte, sous le visage de l'un ou l'autre de mes frères, c'est peut-être risqué que je vous trouve comme au temps de Noé, où on mange, on boit, on vit la sexualité sans amour, comme une consommation d'une personne, un objet, sans amour, sans relation profonde. Il dit, je vous risque de vous retrouver au temps de Noé où on était englouti, dit, dans la consommation, sans s'en rendre compte. Puis heureusement, il y a eu une arche. Il y a Noé qui a sauvé l'humanité parce qu'il a recréé dans une arche des lieux de communion entre les hommes et les femmes, entre la nature et les êtres humains. Il a sauvé l'humanité en offrant quelque part des lieux de communion. De communion. Et je me rappelle quand j'étais dans les communautés de base, il y avait un prêtre qui venait de loin qui nous avait dit, vous savez, les gens ont tellement faim et soif de relations, de communion, que si vous ouvrez à quelque part un milieu de communion comme celui qu'on vit ici cet après-midi, vous aurez beau fermer les portes, les gens vont rentrer par les fenêtres. Tellement, c'est une faim et une soif. Alors, la première tentation que Jésus a voulu vivre pour nous la révéler, le diable s'y prend pour que notre monde ne ressemble pas trop au royaume des relations réussies. C'est de transformer notre désir de communion et de relation par de la consommation. La consommation. Et qui fait que dans un monde où c'est la consommation qui l'emporte, ben, on se demande quoi faire avec les personnes âgées. Ils ne produisent plus. Ils ne sont plus utiles. Avec les personnes handicapées qui ne sont plus utiles non plus. Et qui coûtent cher à la société. Parce qu'on est dans un monde de consommation. Et non pas de communion, de relation, de vie. La deuxième tentation à laquelle Jésus fait face, le diable qui se présente dans sa route, sur sa route. Le diviseur. Il sait très bien, et Pierre en a très bien parlé, c'est très bien qu'il y a en nous une parole, l'amour en nous, c'est le désir de relation, et que c'est une parole capable de fécondité. Quand on est en relation, on est fécond. On est capable de s'autoriser les uns les autres à être parole de vie, à donner la vie. Et on appelle ça un beau mot, autorité. On a une parole chaude, capable de confirmer les autres, capable de les aider à se relever, capable de les aider à croire en eux. Une parole d'autorité, c'est une parole qui fait grandir. Dans le mot autorité, il y a ce mot-là, grandir, hauteur, faire croître, faire grandir. Et en araméen, c'était le nom de Joseph. Ça veut dire faire croître. Saint Joseph, à qui on a confié l'enfant Jésus pour qu'il l'accompagne dans sa croissance. Un milieu qui aide à grandir. Le diable, c'est ça. Il fait tout en son pouvoir pour transformer cette capacité qu'on a, cette parole chaude, cette parole de nous aider à grandir les uns les autres, à transformer l'autorité en pouvoir, en exercice de pouvoir sur les autres. Il y a quelqu'un qui a dit que c'est facile à distinguer. Quand on veut vivre l'autorité, on cherche à faire grandir, à faire épanouir. Le pouvoir, il vise à faire obéir, à faire soumettre. Et quand on n'a pas cette parole chaude capable d'aider nos enfants à grandir, les confirmer, les aider, nos compagnes, nos compagnons, les gens avec qui nous sont confiés, souvent on fait appel à un pouvoir extérieur. pour faire soumettre. On fait peur avec un pouvoir extérieur. Un papa, une maman qui n'ont pas autorité sur leurs enfants, pas cette parole chaude capable de les aider à grandir, à se relever après qu'ils ont fait une bêtise, à comprendre que des fois on peut avancer, on peut faire une bêtise et on s'en sort. Souvent, ils vont faire appel à un pouvoir extérieur pour faire obéir, pour faire soumettre. Fais attention, le bonhomme 7 heures s'en vient. Ce curé s'en vient, là. La police va venir. Et le plus dangereux des pouvoirs qu'on a exercés, c'est quand on a pris le bon Dieu pour ça, pour faire peur au monde. Attention, le bon Dieu va te punir. Attention. Ça, c'est le plus dangereux des pouvoirs, c'est de faire appel à celui qui nous aime, qui est notre Père, pour faire peur à ses enfants. Ça dure beaucoup, ça, cette peur-là. Le diable, il sait cela. Puis il voudrait partout en nous transformer cette parole chaude en exercice de contrôle et de pouvoir. Et le pouvoir et le contrôle, vous le savez, ça mène à la violence. Y en a-t-il assez de violence dans notre monde? Trouvez-vous qu'il y en a assez? Oui? Hein? Y en a trop? S'il y en a assez ou s'il y en a trop? Bien trop. Je pense que c'est très important, de dire amen à cette prière, ne nous laisse pas succomber à la tentation du pouvoir. Et que chacun et chacune de nous demande au Seigneur de nous révéler quels sont nos petits moyens, devenus souvent inconscients d'exercer un contrôle sur les autres. Parce que c'est ça qui est grave, c'est qu'on a appris ça quand on était petit. On a gardé ces moyens-là. Et quand on veut exercer un contrôle sur les autres, savez-vous ce qui se passe? C'est que la communication est coupée. Ça coupe la communication. On ne se parle plus, on remet ça plus tard, puis on avale. On avale les affaires plutôt que de communiquer, que de se parler, on avale. Puis quand on avale, bien bonjour, là, ça pète les plombs. N'est-ce pas? Puis là, on ne comprend pas qu'un monsieur a tiré sur quelqu'un, un autre a fait ça. On dit, comment ça se fait? Il me semble que c'était du bon monde. Puis à un moment donné, on a pété les plombs. Puis on a fait quelque chose qu'on regrette toute sa vie. Pété les plombs. Pourquoi? Parce qu'on vit parfois dans un monde où inconsciemment, on exerce du contrôle sur les autres. On a appris ça enfant. C'est devenu inconscient, mais je me dis toujours que c'est pas très intelligent que de vivre inconscient. Je pense qu'il faut demander au Seigneur et aux autres de nous aider à voir si on n'exerce pas un petit contrôle à quelque part. Et les moyens d'exercer un contrôle, quand on les découvre, ils sont drôles, parfois. Ça peut être, on a appris ça quand on était enfant, ça peut être les larmes. On essaie de communiquer, de s'expliquer, puis l'autre se met à pleurer, puis là, ça nous coupe les bras, puis on ne parle plus. On met ça plus tard. Puis on essaye encore, puis l'autre se met à pleurer, on arrête la communication, on ne se parle plus. On attend, puis un bonjour, paf, on pète les plombs. Ça peut être la bouderie. L'autre, ça va bouder. On ne sait pas pourquoi. Ça exerce un contrôle parce que ça coupe la communication. Tous les moyens d'exercer un contrôle qui font de la violence dans le monde. Ça peut être quoi encore? Ça peut être le mutisme. J'ai quelque chose à dire, puis je ne le dis pas. Les autres le sentent, mais on sent, on dit, elle doit avoir de quoi dire, elle ne parle pas. Ça coupe la relation. On a la parole, nous autres, pour faire la relation, se parler les uns les autres. Ça peut être quoi encore? Ça peut être de tout tourner en farce. On commence à se parler sérieux, puis ça devient beau à parler, puis d'un coup, pop, on tourne en farce. Il y a une jeune fille de 17 ans qui m'a dit ça, c'est trop bien mon père. Dès que j'essaie de l'aborder pour lui parler sérieux un peu, il fait une farce, puis il s'en va. Fini. Pas capable de lui parler. Ça peut être beaucoup de choses, hein, qu'on a appris, puis qu'on, inconscient, qu'on dit, ben, c'est pas de ma faute. Ça se fait tout seul, c'est plus fort que moi, je suis comme mon père, je suis comme ma mère. Mais je pense que c'est important de demander au Seigneur, parce qu'il y a trop de violence dans le monde, demander au Seigneur de nous révéler Quels sont mes petits moyens à moi d'exercer un contrôle sur les autres? Quand j'étais petite fille, je me rappelle, j'avais 7 ou 8 ans. Vous savez, quand on veut obtenir quelque chose de nos parents, on est tenace, hein? Puis on sait où aller les étriver, hein? Assez aller les toucher, hein? Mais chez nous, je sais que fallait pas dire maudit dans la maison. Fallait pas dire ça dans la maison, encore moins les autres, hein? Mais quand je voulais obtenir de quoi, j'étais au l'étage des chambres des enfants en haut, puis je voulais avoir de quoi de maman, je me rappelle pas quoi. Mais j'étais en haut, puis je tenais la rampe de l'escalier, puis je tapais du pied, puis je disais maudit, 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 maudit. Hein? Savez-vous ce qui est arrivé? C'est que j'étais obligée d'arrêter toute seule parce que maman s'en est pas occupée. Elle s'est pas occupée de moi. J'étais obligée d'arrêter toute seule. J'ai dit merci, maman. Merci, maman. Tu m'as empêché d'apprendre ça. Tu m'as arrêté. Hein? Parce que on finit par tenir ça. Et ça fait des moyens qui font de la violence dans le monde, d'exercer un contrôle sur les autres, couper la relation et d'obtenir ce qu'on veut par des moyens comme ça, des petits moyens comme ça qui font de la violence. Le diable, il sait très bien faire cela, nous diviser par des petits moyens qu'on a d'exercer un contrôle. Puis il sait très bien aussi comment nous encourager à nous faire des petits royaumes. Il dit, si tu te prosternes et m'adores, je vais te donner tous ces royaumes-là. Et nous, il veut nous inviter à faire le royaume des relations réussies, mais on se fait des petits royaumes. Puis c'est très facile de se faire des petits royaumes. Et quand on découvre les petits royaumes qu'on se fait, des fois on trouve ça ridicule parfois. Ça peut être des manières d'empiler des draps. Touchez pas à ça. Ça peut être une manière de faire telle chose. Touchez pas à ça. Nos petits royaumes, et pour défendre nos petits royaumes, nos petits patouches, manière de mettre un bouquet quelque part. Ça peut être une manière de faire telle prière. Ça peut être telle manière. C'est toujours la relation qui paye le prix de nos petits royaumes. Et on se prépare, on est absolument à nos petits royaumes, comme entre Israël et la Palestine. On se prépare des soupirs canons, puis des yeux pistolets, hein, puis des paroles qui font mal pour pas grand-chose. Et je pense que il nous faut regarder cela cet après-midi en demandant à Jésus de ne pas nous laisser tomber dans ces tentations. Il les a vécues pour nous les révéler. Et nos petits royaumes, mon Dieu qu'on en a. Jean Vanier disait, à table, ne parlez jamais ni de politique ni de liturgie. Parce qu'il y a beaucoup de petits royaumes dans tout ce monde-là. Et si vous remarquez dans nos maisons, maisons religieuses et maisons, beaucoup de petits royaumes, touchez pas à ça, c'est à moi. Puis si vous touchez à ça, c'est la relation, la communion qui paye le prix de nos petits royaumes et qui nous empêche de travailler au royaume des relations réussies sur la terre comme au ciel, qui est bien plus grand que tous nos petits royaumes à nous. Ça, c'est important de demander au Seigneur cette grâce-là, parce qu'il y a trop de violence dans le monde. Et je suis convaincue qu'on ne sortira pas de la violence seulement en nous montrant à la télévision les victimes de la violence que sont souvent les femmes et les enfants, parce que les femmes aussi, on est capable de violence. C'est juste différent. Nous, notre forme, on est aussi capable de violence, n'est-ce pas? Hein? C'est juste différent. Mais il y en a tellement que chacun et chacune de nous peut demander la grâce de voir où moi, j'en fais un petit peu par mon désir, inconscient parfois, mais d'exercer un contrôle sur les autres, sur les situations, sur moi-même et sur Dieu. Et la troisième des tentations à laquelle Jésus nous met en garde, il a vécu pour nous, c'est le diable, il sait très bien cela, que l'amour en nous, c'est un feu, une passion, n'est-ce pas? Vous savez, une passion qui nous dévore, hein? Un feu qui nous pousse, un feu qui s'anime, un feu qui demande toujours à vivre et qui fait qu'on va rencontrer des gens qui sont vraiment passionnés. Le diable, c'est ça. C'est une passion, un feu. Et plus il y a une passion, Plus on peut s'attendre qu'il y a l'autre passion de la dernière semaine de Jésus. Mais si Jésus a vécu la souffrance, la passion qu'on appelle la souffrance, c'est parce qu'il avait en lui un amour, d'une très grande passion d'amour en lui pour l'humanité. La passion de Dieu pour l'humanité, Jésus l'avait attrapée, hein, puis voulait la partager avec nous. Le Père a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, non pas juger le monde, mais le rassembler. Et cette passion d'amour en nous, le diable, ça le dérange, la passion d'amour pour l'humanité, la passion qui est en moi pour agir, pour faire. Il voudrait bien transformer ma passion en passivité. Mais éviter la souffrance à tout prix. Jette-toi en bas, t'es le Fils de Dieu, toi, t'as la foi, tu devrais pas souffrir, ça devrait pas arriver. Jette-toi en bas, tu souffriras pas, toi. Le diable voudrait nous inspirer parfois de faire appel à des privilèges pour éviter le sort du commun des mortels, qui est de passer par des situations de souffrance. On ne la cherche pas, mais dans la croissance et dans la vie, la passion qu'on a en nous, ça nous amène de la souffrance, de la passion dans l'autre sens du mot, de la souffrance comme Jésus. Ce n'est pas la croix qui l'a fait mourir, c'est la passion d'amour pour nous qui l'a fait mourir. Il l'a amené à vivre ce temps de passion. La passion de Jésus. Transformer notre passion de vivre en passivité. Je dis, moi, je ne dirai plus rien parce que c'est moi qui vais manger les coups. Je me retire parce que quand je parle, ça me fait mal après. Je ne prendrai plus, je vais me retirer, je ne dirai plus rien. Je ne prendrai plus de responsabilité parce qu'on dit, c'est ceux qui s'avancent qui mangent les coups. Ben oui. Transformer ma passion en passivité. Je ne ferai plus rien, je ne dirai plus rien, je vais me retirer. Je vais laisser faire les choses et d'éviter la souffrance à tout prix. Il ne faudrait pas que ça m'arrive. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour que ça nous arrive? Alors que Dieu en Jésus n'est pas venu nous dire qu'il nous enlèverait la souffrance. Il n'est pas venu nous dire qu'on passerait par-dessus, qu'on passerait en dessous, qu'on passerait à côté. Il est venu nous dire qu'il serait avec nous et qu'il passerait avec nous dedans. Qu'on a ce qu'il faut pour passer dedans, l'amour qu'il a mis dans nos cœurs. Des fois, je m'imagine que si Dieu n'avait pas été Père, qui nous fait, comme disait Pierre l'autre jour, qui nous fait sortir, il veut nous faire grandir, il veut nous envoyer, il n'a jamais envoyé son Fils dans le monde. Jamais leur envoyer parmi nous vivre ce qu'il a vécu, il l'aurait protégé. Il l'aurait gardé dans son sein, il l'aurait gardé chez lui. Il aurait même leur envoyé ce monde de fous dans lequel on l'a envoyé pour l'aimer, pour le relever, pour le faire grandir. Je comprends que Jésus a crié sur la croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Puis le Père, il n'a même pas répondu. Pourquoi que le Père n'a pas répondu à Jésus pour l'amour du ciel? Pourquoi il ne répond pas souvent à nos prières, à nos cris? Moi, je pense que c'est parce que le Père savait ce qu'il avait mis dans son Fils, qu'il avait ce qu'il faut pour passer à travers. Il savait la puissance de l'amour qu'il avait mis dans son Fils et qu'il avait ce qu'il faut pour passer à travers et qu'il l'attendait de l'autre côté de ce dernier passage qu'il avait à vivre. Et que le souffle qu'il avait mis en lui, lui faisait vivre, passer à travers la souffrance et la mort, et s'en sortir grandi et en vie. Alors, mes frères et sœurs, quand nous disons Amen, que son règne vienne, le royaume des relations réussies sur la terre comme au ciel, le royaume où la volonté du Père, qui est l'amour, se vive ici comme elle se vit entre eux au ciel, je pense que c'est important de bien aussi dire Amen à ce que nous lui demandons, de nous faire reconnaître les tentatives, les astuces du diable dans nos vies pour nous faire transformer notre désir de communion en simple consommation, pour nous faire transformer notre autorité en pouvoir, nous faire transformer notre passion d'agir, notre passion d'aimer, notre passion de vivre en passivité pour que le règne du Père arrive, pour que les communautés puissent grandir, pour que la vie puisse grandir sur la terre. Il y avait un père au blanc je termine avec cette petite histoire que je trouve tellement belle, qui m'avait enseigné à l'Université Saint-Paul. Puis il m'avait dit, « Sœur Rita, j'ai hâte de prendre mes vacances, d'être à la retraite pour aller en Gaspésie l'automne. » La première année qu'il était à la retraite, il m'a téléphoné et dit, « Est-ce que je peux aller en Gaspésie? » J'ai dit, « Venez, père, je vais aller vous chercher à Saint-Anne-des-Monts, on va faire le tour. » Je l'ai amené au Parc Forillon. Il y en a beaucoup qui sont déjà allés au Parc Forillon, en Gaspésie. Hein? Je l'ai amené au Parc Forillon et au Cap Bonhomie. Puis sur la mer, près du Cap Bonhomie, il y a des galets, des cailloux. Des cailloux qui sont usés par la mer. Vous savez comment la mer finit par user les choses, patiner. Hein? Puis il dit, « Oh, j'ai envie de faire le petit garçon puis de ramasser des roches. » J'ai dit, « Allez-y, père, il y en a en abondance. » Il prend un caillou, à peu près gros comme ma main peut contenir, puis il le met, il dit, « Mon Dieu, qu'il est doux. » J'ai dit, « Mettez-le sur votre joue, vous allez voir, c'est encore plus doux. » Il dit, « Je viens de comprendre une conférence que j'ai souvent donnée. » J'ai dit, « Oh oui, ça m'encourage. » Ça veut dire qu'on ne comprend pas toujours ce qu'on dit. Hein? Il dit, « J'ai souvent donné une conférence pour dire que la douceur, ce n'est pas le synonyme de la mollesse, mais que c'est un maximum de fermeté. » Puis il dit, « Je viens de comprendre que ce caillou-là, s'il n'avait pas été très dur, très ferme, il ne serait jamais devenu doux. Il serait effrité sous le coup des vagues, des mers, vargé par la mer, frappé par les autres cailloux. Il se serait émietté, égrené en mille morceaux, comme on dit. Il ne serait jamais devenu doux. » N'est-ce pas? Et j'ai compris que parce qu'il était solide, qu'il était dur, qu'il a pu devenir si doux comme un diamant. Et ma vieille tante, philosophe, mais pas instruite, m'avait dit la même chose. Elle dit, « Rita, tu sais, quand on aime, il faut avoir le cœur dur. » J'ai dit, « Voyons, ma tante, le cœur dur, quand on aime. Hein? » Elle dit, « Oui, il faut être solide. Hein? » Il faut être solide parce qu'elle dit, des fois, on n'a pas toujours la réponse. On aime, puis on n'a pas de réponse. Elle dit, « Il faut être solide pour ne pas s'effriter, pour ne pas se détruire. » Et là, j'ai compris ce qu'on dit le vendredi saint de Jésus en lisant Isaïe, vous vous rappelez de ce beau texte. « J'ai rendu mon visage dur comme pierre pour ne pas m'effriter sous les coups, mais devenir doux et humble de cœur. » Alors, mes frères, mes sœurs, cet après-midi, ce soir, l'Eucharistie, puissions-nous dire « Amen » à tout notre Père. Notre Père, que ta volonté soit fait. Que ton règne de relation réussie arrive sur la terre par nous, par Jésus et par nous. Et pour cela, nous consentons à ce que le pain soit partagé, notre pain soit partagé. Tu nous le donnes pour qu'on le partage. Nous consentons à ce que l'amour circule entre nous, défasse nos nœuds et qu'il circule librement entre nous. Et nous te demandons de nous apprendre avec Jésus à flairer les tentations qui empêche le monde de devenir beau et à nous délivrer du mal, du malin et de tout ce qui fait mal à nos vies, à notre humanité. Je nous le souhaite avec beaucoup d'amour.